Bienvenue à bord et bienvenue à Jonathan Sixou. Bonjour Jonathan Sixou.
Bonjour Alain Pocard.
Bah, je suis très content de vous recevoir et avant tout pour une raison qui est typique d'un homme de radio, c'est que vous, vous savez parler dans le poste, comme on disait.
Espérons que ça dure au moins une heure encore.
Ah, déjà, quand on écrit un bon livre, c'est plus facile que quand on écrit un bouquin sans intérêt.
Bah, écrire un livre, alors, c'est parler tout seul.
Oui, enfin, bon, alors, mais vous voyez, il est comme ça. Hein. Alors, vous êtes écrivain, d'abord et avant tout, journaliste, vous occupez des pages culturelles de la revue Causeur. Et je dois dire que, par exemple, vous aviez travaillé sur Guitry et avec toutes les surprises qu'on a eues, c'est exactement le contraire de ce qu'on raconte.
Exactement.
Voilà. Alors, vous avez déjà publié 3 livres sur Paris avec des prix, des parutions en poche, dont un très original qui s'appelle Rayé de la carte.
C'était le premier, en 2017, dans lequel je raconte l'histoire d'un quartier de Paris, du centre de Paris, qui a totalement disparu, qu'on appelait le vieux quartier du Louvre, qui était enchâssé entre le palais des Tuileries, qui a lui-même brûlé sous la Commune, la Grande Galerie, qui longe la Seine, et le palais du Louvre avec la cour carrée. Et c'était un quartier extraordinaire. Il faut imaginer une sorte de super quartier du Palais Royal, pour ceux qui connaissent un peu Paris, qui allait donc du Palais Royal jusqu'à la Grande Galerie du Louvre. Et dans ce quartier, eh ben, il y avait des églises, l'hôpital des 15-20 dans son emplacement historique. Il y avait un cimetière, le cimetière des 15-20. Il y avait des hôtels particuliers, notamment l'hôtel de Rambouillet, là où a été inventé l'esprit de salon et la langue française qui va avec. Et puis il y avait également des mansardes misérables, il y avait des marchés, il y avait tout l'esprit de Paris finalement se concentrer, ce bric-à-brac incroyable. Et c'était aussi dans ce quartier, rue Saint-Nicaise, que Napoléon a échappé à un attentat bien célèbre.
Il n'y a pas eu d'attentat contre la pyramide du Louvre?
Pas encore.
Alors là, vous sortez un bouquin remarquable, assez plus imposant par le poids et par le fond, et la forme aussi, que là, c'est un livre qui m'a fait un plaisir fou. Il est donc de Jonathan Sixou, Triomphé en festin, au pluriel, sous-titré « Une histoire de France en 20 repas » et c'est chez Perrin. Est-ce que vous diriez que vous êtes écrivain de l'histoire, écrivain, historien, que...
J'ai toujours aimé l'histoire avec gourmandise et j'ai toujours aimé raconter l'histoire et j'ai toujours aimé par ailleurs l'histoire de la gastronomie en elle-même. J'ai pendant pas mal d'années contribué à des guides de critique gastronomique par ailleurs et il m'a paru il y a quelque temps presque évident de lier ces deux intérêts. À savoir donc l'histoire de France à l'histoire de la gastronomie. Et pour cela, il a fallu trouver un angle un peu original, parce qu'il y a déjà eu des livres sur l'histoire de France, sur l'histoire de la gastronomie en France. Mais j'ai eu envie de synthétiser ces deux idées en une seule, et donc de trouver 20 repas qui jalonnent, qui balisent notre histoire de France, qui permet, vous savez, comme ces dessins pour enfants où il faut faire des lignes en rassemblant des points différents sur la page, pour tirer le trait de l'histoire de France entre différents points, entre ces 20 repas, qui ont comme particularité, c'était la première recherche, à savoir des repas documentés. L'idée étant de raconter le plus de détails possible, le plus d'anecdotes possible, le plus de faits de table possible. Donc, si vous voulez, chaque repas commence par le contexte politique dans lequel il a lieu, et évidemment, comment le repas s'élabore, qui est autour de la table, qu'est-ce qu'on mange, et selon les époques également, qu'est-ce que mangent les contemporains des personnes qui ont mangé autour du banquet que je peux raconter.
Oui, mais vous, en plus, alors, vous aimez votre pays et vous aimez la gastronomie. Alors, est-ce que c'est l'un qui vous a déterminé à aimer l'autre, ou est-ce que c'est venu en même temps? Et est-ce que le bouquin est venu peut-être d'une idée plus forte que l'autre, peut-être plus la gastronomie, peut-être la France?
Ça vient ensemble. Et en cela, j'ai trouvé une phrase magnifique d'un grand chef cuisinier du 19e siècle qui s'appelle Jules Gouffet. Et Jules Gouffet a cette phrase magnifique, il dit que la gastronomie est une part de notre nationalité. Et je pense répondre à votre question avec cette simple citation, parce que il va, d'une part tout à fait naturelle, me semble-t-il, que quand on aime son pays, à savoir la France, on ne peut que aimer sa gastronomie, ce qui ne veut pas dire qu'on n'aime pas forcément d'autres gastronomies dans le monde, Dieu sait qu'il y en a de bonnes et de savoureuses, mais la gastronomie française est particulière. Un autre grand chef, plus près de nous, qui s'appelait Michel Guérard, qui est mort il n'y a pas si longtemps que ça, en parlant de gastronomie française, parler d'une cuisine de civilisation. Et il n'y a que deux cuisines de civilisation dans l'histoire de l'humanité. Ils ont une certaine antériorité sur nous. Ce sont les Chinois, la cuisine chinoise. Quand nous étions encore des chasseurs-cueilleurs, eh bien, eux avaient des empereurs et des philosophes qui publiaient des traités de philosophie sur la gastronomie, sur le pouvoir et la gastronomie. Et puis, les Français ont été piqués par cela plus tardivement, au tournant du 19e siècle, à la fin du 18e et au début du 19e siècle. Et là, la gastronomie française, telle qu'on l'entend aujourd'hui, la grande cuisine française, va naître, et à partir de là, elle va être améliorée et surtout perfectionnée. Et par définition, on n'améliore pas la perfection. Donc, à ce moment-là, à partir de ces premières décennies du 19e siècle, cette grande cuisine française va être pensée, va être théorisée, va être imprimée. Il y aura les chefs cuisiniers. Le premier à le faire de façon très sérieuse et théorique, dirais-je, c'est le grand Carême, Antonin Carême. Et il est contemporain.
Un nom de cuisinier,
n'est-ce pas? C'est quand même assez cocasse. Et il est quasiment contemporain d'un homme non moins brillant, qui lui n'est pas du tout cuisinier, qui s'appelle Brillat Savarin. Et Brillat Savarin, lui, est fonctionnaire, c'est un bon vivant, il aime manger, et il va s'intéresser à la table en tant que telle. Et il va inventer ce qu'on pourrait appeler la sociologie de la table, la sociologie des mets. C'est lui qui a cette phrase, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce qui tu es, Et si vous voulez, il va avoir tout, et il va surtout publier Physiologie du goût, qui est un livre qui fait encore référence aujourd'hui. C'est pas un livre de recettes du tout, c'est un livre qui raconte le rapport de l'homme, et de la femme bien sûr, le rapport de l'homme autour de la table et comment les plats, comment les mets, comment un bon repas peut influer sur les humeurs et sur les destinées des peuples même, dit-il.
Et même les décisions politiques. Mais là, je vais vous poser une petite question personnelle. Alors, plus gourmet ou plus gourmand?
Je dirais plus gourmet que gourmand.
Bah, c'est comme ça, voilà. Bon. Oui, on peut dire que le menu tel que vous les décrivez, en tout cas, il y a des descriptions de menus, il y en a même un peu drôles, malgré eux, je dirais. Mais le menu révèle le caractère national par ses produits locaux, parce que vous parliez de la Chine, mais est-ce qu'ils avaient des sangliers, est-ce qu'ils avaient de la, ce qu'on appelle ça se fait plus d'ailleurs les restaurants d'animaux sauvages.
Non, parce que la Chine, c'est pas du tout le propos de mon livre, mais pour répondre à votre question, la Chine qui veut s'inscrire dans un courant de modernité depuis plusieurs décennies interdit notamment la viande. C'est par région, c'est un grand pays très vaste, mais on interdit la viande de chien, on interdit la viande de chat de plus en plus. Mais vous avez dans la gastronomie asiatique et chinoise en l'occurrence, vous avez toujours eu du porc, vous avez toujours eu dans une moindre porc. Quantité le bœuf qui entrait. Et là où c'est aussi une cuisine de civilisation, c'est que les plats élaborés il y a 2 voire 3 000 ans en Chine, les raviolis et autres soupes, eh bien ce sont exactement les mêmes que l'on peut encore manger aujourd'hui. En ce qui concerne les menus que j'évoque moi dans Triompher en festin, on voit qu'il y a une évolution. On n'a pas mangé la même chose effectivement dans le haut Moyen-Âge qu'aujourd'hui, même si les plats sont, les mets sont, les produits sont
alors
quasi
on pourrait
identiques.
Dire que le caractère national français en tout cas s'est constitué par les produits du terroir.
C'est très intéressant, et ça, et en cela je cite un grand auteur qui s'appelle Jean-François Revel, feu Jean-François Revel, qui a des analyses assez amusantes en la matière. Quand il s'est penché sur l'histoire de la gastronomie mondiale, lui, il a écrit un livre formidable à ce sujet, et concernant la cuisine française, et justement sur les terroirs, il tord le cou à un mythe qu'il estime instauré par les historiens du 19e siècle pour noircir le Moyen-Âge, pour noircir l'histoire de France, Évidemment qu'il y a eu des périodes de pénurie. Évidemment, dans l'histoire de France, il y a eu des disettes. On est mort de faim en France dans les 1500 ans qui nous ont précédés, mais pas aussi souvent et qu'on a bien voulu nous le raconter. Et Revel en veut pour preuve, et je m'amuse à citer cette observation, c'est que le sel a eu énormément d'importance. Et ça, si le sel a eu autant d'importance, et l'impôt sur le sel, la gabelle, a mené même jusqu'à la révolution de 89, en partie, ça n'était pas pour mettre simplement une pincée de sel dans un brouet d'herbe.
Non, c'était pour conserver les viandes.
C'était pour conserver les viandes. Et s'il fallait autant de quantité de sel par foyer, c'est bien qu'il y avait quand même pas mal de quantité de viande préserver. Et il a un deuxième autre point. Il estime également que... Il y a une variété incroyable de cette cuisine de terroir, cuisine du quotidien, cuisine de campagne, dirions-nous, en regard de ce qu'il appelle, par exemple, la cuisine de château. Et il dit, mais si le peuple français avait si peu mangé, et s'il y avait eu autant de carences dans l'histoire, cette cuisine qui, par essence, se transmet verbalement, il a fallu qu'il y ait toujours un témoin à chaque génération pour la transmettre à la génération suivante. Il n'y a pas une génération qui a manqué de transmettre une recette traditionnelle. Donc, finalement... S'il y a eu des périodes un peu plus difficiles que d'autres, on a toujours pu manger et entretenir cette variété de cuisine des terroirs, de produits des terroirs en France. Cette émission ne serait pas assez longue pour énumérer toutes les charcuteries, toutes les spécialités de pâtés et autres.
Et moi, je vais vous dire une chose, on parle toujours de la vie dans les châteaux, qui selon Talleyrand, d'ailleurs, que vous allez citer, étaient très ceux qui n'ont pas connu la vie dans les châteaux avant la Révolution, mais il n'y avait pas le seigneur, la seigneuresse et deux ou trois domestiques, c'était des petites villes.
Exactement.
Et ces gens-là, comme les seigneurs ne mangeaient pas tout, voir le film de Jean Renoir, La règle du jeu, voilà. Alors, on va rentrer quand même dans le vif du sujet, dans le saignant du sujet, n'est-ce pas ? 9 décembre 1254, Saint-Louis reçoit Henri III à Paris. Alors, c'est carême, décidément, et malgré tout, c'est un festin... Pas encore de menu écrit, mais le premier livre de cuisine paraît quand même pas longtemps après, en 1306.
Le premier livre de cuisine, effectivement, paraît en 1306, d'un auteur inconnu, parce qu'il faut attendre plusieurs décennies suivantes, dans le dernier quart du XIVe siècle, pour avoir le premier auteur du premier livre que l'on connaît, c'est Taillevan qui publie Le Viandier. Taillevan qui va être, à l'époque on disait pas chef cuisinier, on disait maître queue. Et Taillevan sera le chef cuisinier de Charles V et de Charles VI. Concernant ce banquet qui dure 3 jours à Paris en 1254, c'est avec lui que s'ouvre le livre. Le contexte est celui-ci. Saint-Louis revient de 4 ans, plus de 4 ans de pèlerinage au départ, et ça devait être une croisade, ça s'est plutôt mal passé. Et c'est en simple pèlerin qu'il finit ses près de 5 années de ça n'est pas une errance, c'est un pèlerinage, mais qui le prolonge sur les routes du Proche-Orient. Et il revient à Paris, très affaibli, très amaigri, et il apprend que son beau-frère, Henri III d'Angleterre, se trouve sur le territoire, c'est pas encore la France, mais il se trouve du côté de l'Aquitaine, et qu'il veut remonter à travers le territoire français, passer par les terres royales, pour regagner l'Angleterre. Et il se dit que c'est une occasion formidable de réunir la famille et à ce moment-là se préparer ces 3 jours. Alors il faut savoir qu'un banquet n'est pas qu'un simple banquet dans cette période de l'histoire, c'est accompagné de tournois avant et après, c'est accompagné de joutes militaires, c'est accompagné, en ce qui concerne le repas, de parties musicales également. À ce moment-là, on ne danse pas à la cour royale. La danse est considérée comme un plaisir bourgeois, voire rustique. Mais il y a beaucoup de musique et il y a beaucoup de différentes catégories de musique au sein d'un même repas. Il faut imaginer un repas qui est une sorte de spectacle total. Il y a évidemment la table, mais il y a aussi et surtout des musiciens. On pourrait appeler ça des clowns. Il y a également des farces qui peuvent être données entre les plats. À ce moment-là, on appelle ça, quelques temps plus tard, on va appeler ça un entremets, au sens propre du terme, entre deux mets, entre deux plats servis. Une pièce musicale, une pièce chantée sera donnée. Et ce n'est que plus tard que l'entremets va devenir en soi lui-même un plat servi entre deux plats.
À quelle époque va naître le trou normand ?
Le trou normand arrive, alors sans cette appellation de trou normand, mais on voit...
Premier film avec Brigitte Bardot.
Oui, c'est vrai, parfaitement. Mais on voit qu'il arrive dans le courant du 18e siècle, dans des grands menus, arrive à un moment ou à un autre, à une ou deux reprises, une sorte de glace ou de fruit givré que l'on peut considérer comme le trou normand. Et ça va se systématiser à partir du 19e siècle.
Alors on va passer tout de suite du 7 au 24 juin 1520 avec le camp du drap d'or. Mais il n'y avait pas d'or dans le camp du drap d'or.
Non, mais bien plus que vous le pensez, cher Alain Pocard.
Expliquez.
Que se passe-t-il ? Henri VIII, le roi d'Angleterre, cherche à divorcer. Il est encore catholique et il veut se rapprocher de François Ier, qui entretient de bons rapports avec le pape, pour tenter d'obtenir l'annulation de son mariage par le pape. Et de son côté, François Ier cherche un allié pour faire face à Charles Quint, Charles Quint qui a été élu empereur du Saint-Empire, et donc il est aussi bien en Espagne qu'en Allemagne, et plus au nord dans ce qu'on appelle les Flandres. Donc la France est cernée par cet ennemi terrible pour elle. Donc François Ier décide d'organiser cette rencontre avec Henri VIII. Et pourquoi je vous dis que le drap d'or, oui, est bien en or ? C'est-à-dire que du côté de Calais sont édifiés deux campements gigantesques, des tentes, côté français, des tentes qui peuvent faire jusqu'à 30 mètres de diamètre. C'est monumental au sens propre du terme. Et les tissus sont brodés, sont surbrodés de fils d'or. Il se trouve que énormément de factures de la cour de France nous sont parvenues de ce campement. Et donc, on sait les sommes considérables qui ont été englouties pour l'édification de ce campement. La rencontre entre la cour de France et la cour d'Angleterre, on estime à peu près à 3000 personnes de chaque côté de participants, va durer près de 14 jours. Là aussi, chaque jour, la cour de France est invitée chez le voisin anglais et inversement. Des journées qui se passent en divertissement, qui s'écoulent en combat. On sait qu'Henri VIII et François Ier vont se prêter à des jeux de lutte, par exemple, mais il va également y avoir des courses de chevaux, etc. Et énormément de repas. Ce qui marque les observateurs du temps dans un premier temps, c'est la somptuosité déployée par la cour de France, qui va largement mater les Anglais sur ce plan-là. La cour de France est réputée dans toute l'Europe pour la richesse et la somptuosité de son train de vie au quotidien. Et donc, dans ces tentes incroyables, qui n'ont de tentes que le nom quasiment, vu leur grandeur, il se trouve que quand les rayons de soleil tombent sur ce campement, et on a vraiment l'impression que ces tentes sont édifiées en briques d'or massif. Les souverains vont beaucoup s'amuser, ils vont énormément manger. Il est intéressant de noter, là aussi, que la table de François Ier, on est en 1520, n'est pas si différente que la table royale un siècle auparavant. C'est-à-dire qu'il y a une profusion de viande rôtie, il y a une profusion de victuailles en général, parce que c'est aussi ça qui montre la puissance de l'hôte qui reçoit son invité. Il faut qu'il y ait ce qu'on appelle aussi un gâchis symbolique. On apporte à table beaucoup plus de plats, beaucoup plus de quantité d'aliments qu'il y a de convives autour de la table pour montrer sa puissance. Et comme vous le soulignez tout à l'heure, les plats qui n'ont été touchés que des yeux repartent ensuite à l'office. Et là, ils vont alimenter, à tous les sens du terme, tous les échelons inférieurs de la cour et puis même les personnes qui gravitent autour de la cour. Tout ça est très bien organisé. Ça fait partie d'une économie parallèle systémique, dirais-je, qui fait que finalement, tout le monde s'y retrouve.
Mais vous citez par exemple un Hustodeau, mais heureusement, comme vous êtes gentil avec les lecteurs, vous dites que ce sont des jeunes poulets. Il y a des noms qu'on voit apparaître dans votre livre, on dit « qu'est-ce que c'est ça ?» Bon, je les citerai. Mais finalement, alors, et vous dites ça, il y a un parallèle avec une fête sublime aussi, qui a lieu en 1971. Mmh. Alors, c'était un président de la République et le Shah d'Iran. Et donc c'est...
C'est pour marquer les 2500 ans de la monarchie, je crois.
Oui, et puis il y avait les fêtes de Persépolis aussi.
À cette occasion-là.
Ouais, ouais.
Et la fête de Persépolis est directement inspirée du camp du drap d'or, puisque les dizaines de chefs d'État et de gouvernement et de monarques invités par le Shah d'Iran à cette occasion, cette année-là, sont logés dans des tentes somptueuses, surtout hein, dans les montagnes autour de Persépolis, dans cette plaine de Persépolis, et il va y avoir un grand dîner. Je donne en conclusion de ce chapitre-là effectivement le menu élaboré par les Français. Et là, il faut imaginer que la table de ce somptueux dîner fait 70 mètres de long. Et les observateurs de ces années 1975 remarquent qu'elle est surmontée d'une nappe qui est brodée d'un seul tenant.
Mais vous voyez, quand on lit par exemple les menus de cette époque, non pas de 1971, oui. Mais bon, on dit « Oh là là, mais qu'est-ce que c'était original, mais ça devait être très cher et tout ». Mais il faut quand même reconnaître que ça s'est démocratisé, parce que il y a avec le Shah d'Iran, donc, mousse de queue, d'écrevisse, sauce d'Antoine, mais on en trouve partout maintenant, en surgelé, en boîte de conserve, dans des restaurants de bonne tenue, sans que ce soit les plus grands restaurants de Paris.
Alors, concernant ça, c'est intéressant que vous pointiez ce plat en particulier, parce que s'il y a des choses qui ont disparu au fil du temps dans nos menus quotidiens, même pas de menus de fête, ce sont énormément les poissons, et notamment les poissons de rivière. Et en France, tout le monde vous dira qu'il y a quasiment plus d'écrevisses. Et les écrevisses qu'on peut trouver, soit déjà préparées, soit dans des restaurants à des prix plus qu'abordable, c'est que ce sont des écrevisses qui viennent soit d'Europe de l'Est, soit même d'Asie, où il y en a encore beaucoup. Mais les cours d'eau français se sont considérablement appauvris. Et quand
À cause ?
Il y a eu la surpêche, parce qu'il y avait beaucoup plus de périodes de carême. Déjà, tous les vendredis étaient tous les menus du vendredi étaient respectés dans le temps, et à tous les échelons de la société. Et à ce moment-là, il y avait aussi beaucoup plus de carême imposé dans le calendrier religieux tout au long de l'année. Et donc, il y avait une consommation de poissons, et il y avait sur les étals des marchés pendant des siècles, deux catégories de poissonnerie. Vous aviez les poissons d'eau de mer et les poissons de rivière. Et les poissons de rivière se présentent en des dizaines et des dizaines d'espèces dont on n'a plus aujourd'hui qu'une pâle idée.
Alors on va passer à un nouveau banquet qui a lieu le 14 juin 1549. Et alors, vous ne pouvez pas vous manquer quand même de râler un peu et de remettre des gens dans une meilleure posture que l'ont mis des gens comme Alexandre Dumas. Alexandre Dumas, je ne sais pas quelles étaient ses idées politiques, mais il a fait un tort énorme à la monarchie avec Louis XIII présenté comme un imbécile. Alors c'est un grand chef d'État. Puis il faut dire, n'était pas conseillé par n'importe qui. Et non comment? Plus. Il n'y a pas les écrevisses Richelieu, non, quelque chose.
Alors ça, les écrevisses Richelieu...
On va en parler.
Alors,
Catherine de Médicis offre un dîner. Et maintenant, c'est la ville de Paris qui l'offre. Pourquoi vous soutenez... Moi, ça ne me dérange pas, mais pourquoi donner vos raisons pour lesquelles vous aimez bien Catherine de Médicis?
Au cours des recherches que j'ai effectuées pour nourrir ce chapitre, donc Catherine de Médicis, comme le veut la tradition, est reçue à l'hôtel de ville à l'occasion de son couronnement en tant que reine, sa reconnaissance en tant que reine de France, bien qu'elle est déjà mariée à Henri II depuis 2 ans. Et la tradition veut que l'hôtel de ville reçoive les souverains séparément, après une messe à Notre-Dame. Il y a toujours un grand banquet qui honore la personnalité invitée. Il se trouve qu'en faisant mes recherches pour nourrir donc ce chapitre, j'ai découvert une Catherine de Médicis très sympathique. Elle arrive en France entourée de personnes qui elles-mêmes sont a priori plus assez sympathiques. Ce sont notamment des confiseurs. C'est Catherine de Médicis qui fait venir le massepain, par exemple, en France, la culture du bonbon en France. Elle va également venir avec quelques...
Et il vient d'où le bonbon ?
Alors, vous avez plusieurs sortes de bonbons. C'est-à-dire que pourquoi elle vient avec le bonbon ? Parce que jusqu'au XVIe siècle, le monopole du sucre est détenu par les Vénitiens. Et donc, en étant à Florence, elle est déjà un peu plus proche de l'arrivée du sucre, si vous voulez, que le sont les Français à ce moment-là. Et elle vient aussi avec ses parfumeurs, etc. Et elle vient avec des goûts nouveaux. Par exemple, le goût pour la salade verte, le goût pour les artichauts, ce genre de légumes qui poussent dans le sol et qui sont plutôt méprisés jusque-là par les Français, surtout par la cour de France. Et elle s'intéresse énormément à la gastronomie en général. Elle aime énormément manger. On a des rapports de diplomates à la cour qui s'inquiètent même de son embonpoint, mais il souligne qu'elle a une telle énergie, c'est incroyable. Elle marche d'un pas leste, etc. Elle est vraiment une femme très vive, mais qui est capable d'ingérer des quantités monstrueuses. Elle dit même un jour, à l'issue de je ne sais plus quel mariage, qu'elle a cru crever d'artichauts, parce que quand elle a des artichauts devant elle, elle est incapable de se retenir et elle en aurait trop mangé. Autrement dit, elle en aurait fait une sérieuse indigestion. Et elle va s'intéresser énormément à l'agronomie. C'est quelque chose de tout récent à ce moment-là. Elle a à sa cour un homme que les lettrés connaissent un peu, qui s'appelle Brantôme. Et Brantôme est aussi bien une sorte de chroniqueur de cour que de conseiller de Catherine de Médicis. Et ensemble, ils vont pendant près de 2 ans sillonner le territoire de la couronne pour voir ce qu'on pourrait développer dans telle ou telle région selon l'ensoleillement, selon l'humidité présente, etc., les spécificités des terroirs précisément, pour voir comment on pourrait peut-être acclimater telle ou telle espèce nouvelle venue dans les bagages de Catherine. Et elle va s'intéresser toute sa vie à cela. Il se trouve, ce n'est pas un détail, qu'en 1572 a lieu la Saint-Barthélemy, elle est, les historiens ne sont pas très clairs pour dire quel est le rôle exact qu'elle-même, j'entends, je parle vraiment de la reine mère qu'elle est à ce moment-là. On ne sait pas si elle a donné des ordres, on sait qu'elle a suivi des choses, mais a-t-elle donné des ordres, on l'ignore. Et c'est pour ça que vous citiez à juste titre Dumas, mais on pourrait aussi citer Balzac et bien d'autres auteurs du 19e, qui ont clairement édifié sa légende noire à partir du récit de la Saint-Barthélemy, effectivement, où on dit qu'à partir de là, sa robe est entachée d'une tache indélébile de sang et que finalement, c'est ce personnage qui est venu jusqu'à nous. Et donc, en lisant des historiens, contemporain de Balzac, contemporain de Dumas père, il y a des historiens dès le 19e qui disent mais elle est pas du tout telle que les décrivent ces grands romanciers, et de faire également le portrait que je vous ai brièvement tracé à l'instant.
Mais vous avez raison, d'autant plus que dans une guerre de ce type, tout le monde massacre les autres, hein, il n'y a pas que les catholiques. Vous aimez Léon Blois?
Il y a des pages magnifiques de Léon Blois.
Alors justement, parce que quand il parle à un moment, il évoque la Saint-Barthélemy, il dit « un ratage désolant ». Mais on va parler à une autre Médicis, qui est Marie de Médicis, et qui se marie avec Henri IV le 17 décembre 1600. Alors il y a déjà des auditeurs qui m'ont dit « le repas emblématique de l'histoire de France n'est-il pas la fameuse poule au pot de Henri IV ?» Mais oui, cher Roland, on finit par parler de tout, vous voyez.
On y arrive.
Voilà, voilà.
Alors, brièvement sur le contexte, effectivement. Henri IV doit se remarier. Il a divorcé de Marguerite de Valois. Elle aussi entrée dans l'histoire grâce à Alexandre Dumas, la reine Margot. Le divorce est prononcé. Il faut marier le roi, mais lui, il a ses maîtresses, il n'a pas vraiment envie de se marier.
Oh.
Il se trouve que les finances du pays, tout comme le pays à ce moment-là, sont exsangues. Il n'y a plus rien. Les guerres de religion ont vraiment été un désastre pour tout et pour tout le monde. Et il y a quand même des conseillers autour du roi qui s'occupent de lui, qui disent qu'il faut le marier. Et il y a cette Marie de Médicis, effectivement, fille des grands banquiers florentins. Et elle n'est pas très belle, elle est intelligente, dit-on. Les mauvaises langues l'appellent la grosse banquière.
Elle aussi.
et c'est donc un mariage, évidemment, de raison un mariage de raison politique qui va être noué. Le mariage, alors qu'il y a un mariage par procuration qui a lieu à Florence, Marie de Médicis, les tableaux de Rubens nous l'illustrent parfaitement, arrive à Marseille et elle remonte le Rhône en direction de Paris. Et il y a des étapes qui accueillent la jeune mariée et le roi n'est jamais là. Et il va finalement la retrouver seulement, mais plus de 10 jours après l'arrivée de Marie en France. Et il y aura donc ce repas de noces dont il est question dans le livre. Un repas qui est... On ne sait pas exactement tout ce que les convives ont pu déguster ce jour-là, mais il y a des descriptions assez étonnantes qu'on pourrait qualifier de baroques dans la décoration de la salle. Par exemple, ce sont des tables de plusieurs invités. Ce n'est pas une grande table unique. Et chaque table est surmontée d'un surtout en miroir qui fait que les lumières des bougies doivent se refléter de façon assez intéressante dans une grande salle de festin. On peut imaginer une atmosphère de clair-obscur assez intéressante. Pour ce qui est des goûts, des goûts du couple d'ailleurs, aussi bien pour elle que pour lui, on le sait, j'en témoigne dans le livre, ce sont des goûts relativement simples, relativement rustiques, des poissons bouillis, des viandes grillées, au quotidien j'entends. Le roi chasse, le roi qui a souvent, ça c'est l'expression du temps, marmite renversée, c'est-à-dire qu'il n'a pas les moyens de se payer lui-même à manger à la cour quand il est au Louvre. Et il doit demander l'hospitalité à ses propres ministres ou à ceux qui détournent eux-mêmes de l'argent et qui ont eux les moyens d'inviter le roi à leur table ou à d'autres membres de la cour qui accueillent le souverain qui n'a pas d'argent et qui se plaint d'avoir des trous dans ses chemises, etc. Et il a l'habitude de vivre un peu chichement et de toute façon, par nature, il a des goûts simples. Ensuite, il faut répondre à Raymond pour la poulopo. Là, c'est un mythe traditionnel, si je peux enfoncer le clou, qui remonte à très loin. C'est-à-dire que quand on apprend l'histoire de son grand-père au jeune Louis XIV, on lui apprend déjà que c'est lui qui a dit qu'il ferait enfant le jeune Henri de Navarre, qui aurait dit à son camarade quand je serai roi, tous les Français pourront mettre une poule dans leur peau.
Vrai ou faux ?
Personne n'est capable de vous le dire, mais qu'il l'ait ou non prononcé, cette phrase, le fait qu'elle nous soit parvenue ainsi montre un changement des mentalités. Parce que lui aussi va travailler beaucoup avec Sully, notamment, son important ministre, à faire en sorte que la France soit un pays où l'agriculture va pouvoir de nouveau renaître. Parce qu'encore une fois, le pays est ravagé. Les paysans ne savent pas encore, les agriculteurs ne savent pas encore travailler la terre pour qu'elle puisse avoir de meilleurs rendements. Et il va y avoir, sous le règne d'Henri IV, toute une campagne d'assèchement des marais, par exemple, de plantation de forêts, etc., pour pouvoir faciliter les cultures et l'agriculture. Et c'est en ça qu'on lui doit beaucoup. Ensuite, d'un mot sur la poule au pot en tant que telle. La poule au pot, c'est quoi ? C'est ce qu'on pourrait appeler un pot-au-feu. Or, dans le Béarn, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de bœufs. En revanche, il y a des volailles. Et une poule, c'est quoi ? C'est une vieille poule, souvent une vieille poule pondeuse, qui a une chair...
Soyez poli ici.
C'est pour ça que je précise pondeuse. Qui a une chair coriace s'il faut la rôtir. En revanche, quand elle est bouillie, elle est succulente. Cuire quelque chose au feu, un pot au feu, c'est l'un des plus vieux plats de l'humanité sous toutes les contrées. Dès lors que vous avez un récipient, dès lors que vous avez de l'eau, du feu évidemment en dessous, et de quoi mettre à bouillir, que ce soit des végétaux ou un bout de viande, vous avez en soi un pot au feu. Et la poule au pot n'est que l'adaptation locale du pot au feu.
Alors, on va maintenant arriver aussi sur une idée reçue, c'est que... Fouquet était arrêté par Louis XIV parce qu'il avait donné un tel banquet dans son château, magnifique d'ailleurs, de Vaux-le-Vicomte, il l'a fait arrêter par D'Artagnan, d'ailleurs, qui était vraiment dans tous les bons et les mauvais coups. Il a arrêté aussi le précepteur de Louis XV qui était trop vieux. Il a arrêté tout le monde. Bon, alors il y a même un livre de Paul Morand sur cette question.
Excellent livre de Paul Morand, Fouquet ou le soleil offusqué. Et dans ce livre remarquable, Morand estime que Fouquet a commis un crime de lèse splendeur. Et c'est pour cela que, entre autres, que Louis XIV...
Ouais, mais enfin, c'est aussi parce qu'il s'était mis de l'argent dans les poches. Alors, ça je sais bien qu'à l'époque, ça faisait partie un peu du jeu, hein.
Fouquet n'a pas vu c'est un personnage, quand on se penche sur son destin, qui paraît assez sympathique, voire plutôt sympathique. C'est-à-dire que c'est un homme incroyablement intelligent, incroyablement bon vivant, c'est un homme qui aime les femmes, qui aime la politique, qui aime le pouvoir, non pas pour le pouvoir, mais ce qu'il permet de réaliser concrètement. C'est vrai qu'il mélange sa cassette personnelle avec celle de l'État. Il a été à bonne école. Il a fait ses classes auprès de Mazarin. Et il n'a pas compris une chose. Alors, Morand parle de lui en disant que c'est le dernier seigneur de la Renaissance. Je trouve l'expression très belle en ce dernier quart du XVIIe siècle. Parce que tout en étant le dernier seigneur de la Renaissance, c'est lui qui, d'une certaine façon, invente le grand siècle. Et il va, en inventant Volvicomte, il va inventer le grand siècle. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui a l'idée de réunir avant ça déjà une petite cour composée côté littéraire de La Fontaine et de Madame de Sévigné, côté jardin de Le Nôtre, côté peinture de Lebrun et de Mignard, côté architecture de Mansart. C'est toute cette bande de copains, parce que ce sont vraiment des amis, qui gravitent autour de Fouquet, et c'est l'esprit de Volvicomte, l'esprit initial de Volvicomte. Fouquet, vous le disiez, alimente tout le monde parce que l'argent coule à flot, alors que les finances de l'État, elles, ne sont pas au beau fixe. Mais si la reine a besoin d'argent, elle sait qu'elle va lui en demander. Si même le roi a besoin d'argent, il va taper à la porte de Fouquet. Et ça, le jeune Louis XIV ne le supporte plus. Fouquet n'a pas compris qu'à partir de la mort de Mazarin, eh ben, le chef, désormais, l'État, c'est qui ? C'est Louis XIV. Et ça, il ne le comprend pas, il ne le voit pas. Et avec une certaine naïveté, une certaine candeur, il offre au jeune Louis XIV et à sa cour, en août 1661, une fête.
Le 17 août,
une fête comme il n'en a jamais eu en France. Et la cour est éblouie. Et le roi, déjà dans le chemin, dit-on, qu'il le mène à Volvicomte, dit à sa mère, à Anne d'Autriche, qu'il va le faire arrêter ce soir-là. Sa mère lui dit que ça ne se fait pas d'arrêter même un opposant alors qu'il vous invite à dîner chez lui. Et il attendra quelques mois et il se permettra le luxe, si je puis dire, de faire arrêter le Fouquet le jour de son anniversaire, quelques mois plus tard, le 5 septembre.
Mais vous avez visité Volvicomte ?
Mais c'est un endroit extraordinaire.
Mais je trouve même que d'une certaine façon, je le préfère à Versailles.
Ce sont des proportions tout autres.
Voilà. Et le jardin est quand même remarquable aussi.
Oui.
Alors, on va quand même dire un mot sur Vatel. Est-ce qu'il s'est vraiment suicidé ? Et est-ce que c'est toujours pour une histoire de livraison
de marée.
Voilà, qui ne serait pas arrivé.
Évidemment. Alors ça, c'est une réalité absolue. Vatel s'est suicidé. Mais lui, s'est suicidé au château de Chantilly. Il travaille pour le Grand Condé. Mais Vatel, il ne faut pas perpétuer une fausse information, une fake news, comme on dit, qui traverse les siècles. Vatel n'a jamais été cuisinier. Vatel est un intendant, un super intendant, dirions-nous. Il porte d'ailleurs chapeau à plumes et épée aux côtés. C'est un grand personnage qui menait très cher ses services auprès des grands de la cour de France. Il est au service du Grand Condé pendant des années. Et c'est d'ailleurs durant un séjour de la cour et de Louis XIV au château de Chantilly, qu'il se donne la mort. Pour quelle raison ? Là encore, c'est une somptuosité offerte par le cousin du roi sur plusieurs jours. Il y a plusieurs centaines, voire milliers, dit-on, selon les témoignages d'invités à Chantilly pour le séjour du roi. Et il se trouve qu'un vendredi, la marée n'arrive pas. Vatel ne dort pas depuis à peu près 3 semaines pour organiser ces fêtes incroyables. Il ferait, comme on le dit aujourd'hui en français, un burn-out. Il est au bout du rouleau, il est d'une fébrilité inconcevable. Et quand on lui apprend que la marée ne vient pas, ou plus exactement, il y a un chariot de marée qui vient alors qu'il en attendait 40, il est désespéré. Et que fait-il ? Il monte dans sa chambre et il se transperce le corps avec son épée. Et la marée arrive une demi-heure plus tard. Il a lui-même formé ses hommes et ses brigades, etc., comme on dit maintenant. Personne ne se rend compte de rien. La fête continue comme il se doit. Il y a quand même la nouvelle qui circule. Et Madame de Sévigné le dit dans une de ses lettres, qu'elle regrette la mort de ce cher Vatel, puisque l'information circule.
Interprété au cinéma dans un film anglais par Gérard Depardieu.
Ah mais oui, je crois que vous allez me parler de Madame de Sévigné.
Non, il y a aussi, alors c'est peut-être le dîner tout bœuf du maréchal de Richelieu en août 57, mais attention, maréchal hein.
C'est l'arrière-petit-neveu du cardinal. Mmh. Et là, on est en 1757, en août 1757. Le maréchal de Richelieu est un personnage hors du commun. Mon sens trop peu connu du grand public, personnage trop peu connu de notre histoire de France, dans le sens où c'est le grand seigneur français, celui que Louis Veuillot pourrait appeler plus tard, quand il parlait de ces seigneurs de Versailles, ces grands romains de Versailles, ces grands seigneurs français qui étaient la race romaine de Versailles. Pourquoi? Parce que, comme l'incarne Louis XIV, tout ce qu'il fait est grand. Il est grand seigneur, il est grand amant, il est grand amateur d'art, il est grand bâtisseur, il est grand soldat. Et en 1757, eh bien, la guerre de 7 ans, qui a déjà commencé depuis un an ou deux, commence à s'enliser. C'est un proche, sa longévité, ferme cette parenthèse, sa longévité fait de lui le trait d'union entre le règne de Louis XIV et les prémices de la Révolution. Il meurt.
Une vieille dame aussi qui était d'origine et qui a dit, elle disait à la cour de Napoléon III, oui. J'ai bien connu Louis XV.
Exactement.
Il ne la croyait pas, oui.
Mais si, le jeu des générations fait que, si, si. Et donc, il a pu, le jeune homme, être à la cour du vieux roi. Et il est donc envoyé, parce que c'est un brillant soldat, il est envoyé par recommandation de Madame de Pompadour sur le terrain de la guerre, du côté de Hanovre. Et parce que c'est un bon militaire, il arrive dans le courant du printemps et dès le mois d'août, il fait arrêter les princes et les princesses d'Ostfriese. Et parce que c'est un grand seigneur français aussi, qu'importe qu'il soit ou non ses prisonniers, il se doit de les honorer en leur offrant un grand repas français. Et il mande ses hommes de bouche, parce qu'il va même faire la guerre avec sa maison, comme on dit, et il leur dit de trouver de quoi nourrir ses princes et ses princesses. Ils reviennent bredouilles, parce que là aussi, le pays est totalement dévasté par la guerre. Ils reviennent avec quoi? Avec un bœuf vivant et avec quelques paniers de légumes. Le cuisinier du maréchal de Richelieu est dépité. Il lui dit « mais je ne peux rien faire avec ça ». Et là, le maréchal lui demande une plume, une feuille, et il va de sa main rédiger ce que l'histoire retient sous l'appellation « le menu tout bœuf », que je reproduis évidemment dans le livre, où il va imaginer un grand repas français, c'est-à-dire une vingtaine, 25 plats à peu près, uniquement composé de l'entrée, des entremets et aux fruits, aux desserts, autour de cette pièce de bœuf unique. C'est extraordinaire parce que c'est une démonstration d'un savoir-faire culinaire français, d'un raffinement et là aussi d'un trait d'esprit. Parce qu'il y a énormément, de spiritualité derrière la rédaction d'un tel menu.
Alors d'ailleurs, vous dites, dans le second service, alors 4 hors d'œuvre, 6 entrées et second service, la loyau rôti et l'ajouter de sa main, oui. Je suppose, vous l'arroserez de moelle fondue. C'est-à-dire qu'il a pensé à donner même des conseils, c'est extraordinaire.
Il donne plein de conseils, il dit tournez les carottes ou les pommes de terre, tournez-les grossièrement parce que ce sont des Allemands, et il finit même le menu, c'est dans la description. J'espère que tout doit être délicieux, sinon ce sera retenu sur vos gages.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.
Alors, on va rentrer dans la période révolutionnaire. Et il y a eu des famines là aussi. Il y en a eu avant, mais il y en a eu pendant, faut bien le dire. Bon.
La Révolution française invente pour les Parisiens le ticket de rationnement, par exemple. Et ça, c'est une chose avec laquelle les Français vont devoir apprendre à vivre assez souvent par la suite. Mais c'est la mauvaise gestion d'un pari révolutionnaire qui fait que la commune est obligée d'inventer les tickets de rationnement pour avoir du pain ou du gros pain.
Et même faux monnayeur après Philippe le Bel. Alors, vous évoquez l'assassinat de Lepelletier de Saint-Fargeau le 20 janvier 1793, mais il convient aussi d'invoquer, même pour certains, le 21 janvier 1793, mort du roi, où dit-on les républicains mangent de la tête de veau.
La tête de veau, de la tête de porc, ça dépend.
Cela dit, c'est un bon repas aussi pour moi.
Oui, mais on peut l'éviter un 21 janvier.
Vous avez raison. Et c'est l'époque où on invente le restaurant.
Alors ça découle directement de la Révolution. C'est-à-dire que la noblesse et les membres de la cour qui, depuis le règne de Louis XV, vivent davantage à Paris qu'à Versailles, ont des chefs de cuisine à demeure. Ils sont soit tués par la Révolution, soit émigrent, et leurs chefs se retrouvent de facto au chômage. Ils ont entre les mains un savoir-faire remarquable, Que font-ils? Ils décident d'ouvrir des restaurants. Les prémices du restaurant commencent avant la Révolution, des sortes de tavernes affichant un prix unique.
C'est pas plutôt les auberges?
Oui, auberges plus que tavernes, vous avez raison.
Mais alors, l'expression « qui d'ordine » ne veut pas dire ce qu'on croit qu'elle dit. Hein, elle veut dire que si vous voulez manger, il faut d'abord payer votre chambre.
Exactement, voilà. Parfaitement. Et le restaurant est un bouillon qui restaure, c'est-à-dire qui renforce, qui vous nourrit en quelque sorte. Donc ces chefs, ce n'est pas un hasard, investissent le Palais Royal, rebaptisé Palais Égalité. Et vous avez plusieurs catégories. Vous avez le grand restaurant très luxueux, vous avez la gargote, vous avez des restaurants intermédiaires, vous avez des cafés aussi. Les cafés sont nés à Paris bien avant, mais là, ils se multiplient. Vous avez les premiers glaciers également qui font leur apparition. Et il est à noter que, alors que les Parisiens, dans leur grande majorité, crèvent de faim, les chefs révolutionnaires, eux, arrivent à banqueter quasiment tous les soirs dans les restaurants les plus luxueux du Palais Royal, chez Cléry, chez Méo, dans des salons particuliers d'un raffinement qui n'ont rien à envier à l'ancien régime qui viennent de destituer. Et ils voisinent ces grands restaurants avec des cafés, je vous le disais, plus modestes. C'est notamment le cas de chez Février. Février, c'est le nom de famille de ce cabaretier, qui tient une sorte de caveau donc, au Palais Royal. Et c'est là que le pelletier de Saint-Fargeau, qui est un robespierriste convaincu, a ses habitudes. Le pelletier de Saint-Fargeau, c'est un ultra de chez Ultra. Il a renié ses origines de noble extraction. Il a même fait retirer tous ces quartiers de noblesse de son nom. Et il a voté la mort du roi le 20 janvier, le roi étant devant être exécuté le lendemain. Et il va, il est donc attablé dans un salon particulier chez Février. On sait qu'il commande en ce mois de janvier, froid janvier, une soupe de légumes pour commencer. Il a à peine entamé sa soupe de légumes qu'un homme vient l'aborder. Il s'appelle Paris et il va effectivement lui poser la question. Vous êtes le pelletier? Il va dire oui, vous avez voté la mort du roi. Il dit j'en suis fier. Et là, Paris sort un sabre et le transperce.
Ah, voilà, alors bon, là on va passer tout de suite à le 21 février 1816. Et le fameux grand bal de l'Odéon, pardon, par Carême, surnommé le Palladio de la cuisine. Alors, une chose, ne pas confondre avec le poète belge, bon poète d'ailleurs, mais peut-être que les gens ne savent pas qui est Palladio.
Palladio est un immense architecte italien de la
pléonasme.
Oui, vous avez parfaitement raison, parce que c'est vrai que quels que soient les styles de l'architecture italienne, il y a de grands architectes. Et Palladio édifie... Et édifie à la fin de la Renaissance somptueuses maisons. D'ailleurs, la maison palladienne vient de son nom à lui, Palladio. Mm-hmm. Et pourquoi parle-t-on de Carême en tant que Palladio de la cuisine? Parce que, je vais essayer de synthétiser le maximum possible, le jeune Carême est abandonné par ses parents dans les rues de Paris quand il a 7 ou 8 ans. À la veille de la Révolution, il va rentrer en apprentissage chez un célèbre pâtissier de la rue Vivienne. Et à ses heures perdues, le jeune homme file à la Bibliothèque nationale. On est là sous le consulat. Et que fait-il à la BN? Il va feuilleter les grands recueils de planches d'architecture. Et il va découvrir les villes palladiennes, les temples grecs, il va découvrir les styles de colonnes, etc. Et il va avoir cette idée, c'est un jeune ado, hein, et il va avoir cette idée géniale de créer des architectures comestibles. Il en parle à son pâtissier qui lui dit « vas-y, fais des essais ». Et le bruit va courir dans Paris qu'un jeune génie compose ses architectures comestibles. Le bruit arrive jusqu'à l'oreille de Talleyrand, qui est déjà proche du premier consul et qui reçoit déjà beaucoup chez lui. Et il va demander à goûter cela. Et à partir de là va naître un compagnonnage réel entre les deux, entre la fine gueule l'esthète, le génie politique et diplomatique qu'est Talleyrand et le grand mécène qu'il l'est, parce qu'il a des moyens aussi financiers considérables, et ce jeune cuisinier qu'il va prendre sous son aile et il va lui laisser carte blanche pour développer, développer son génie culinaire.
Alors, vous donnez, alors je ne vais pas lire le menu, parce que là, c'est fou.
C'est un menu pour 3000 invités, hein, c'est un buffet.
Oui, d'accord, mais 1500 potages, 90 grosses pièces, 160 entrées froides, 100 grosses pièces de pâtisserie, 250 plats de roux, 250 entremets, 600 assiettes de dessert et desserts en fruits, desserts en bonbons, nous les revoici, et 1000 bouteilles de vin. Bon, bah écoutez, on s'aperçoit qu'autrefois, on savait faire, mais à la limite, si c'est bon... On n'a pas besoin de tant que ça.
C'est pas que beau, c'est pas que bon, c'est beau également. Carême,
oui,
on doit à Carême également cette idée que alors elle naît auparavant au XVIIe siècle, mais Carême perfectionne encore une fois cette idée de d'une table esthétique et il conçoit ses buffets. Il se trouve qu'il dessine lui-même très bien et qu'il a reproduit dans les livres qu'il publie énormément de planches pour montrer également vraiment la vision qu'il a. Et il va également tout au long des publications qu'il fera à compte d'auteur, c'est d'ailleurs ce qui va le ruiner et qui va expliquer qu'il mourra sans le sou.
Ça ne vous arrivera pas, le talent que vous avez.
Il dessine et on a donc très clairement l'idée qu'il a en tête à chaque fois qu'il parle d'un dressage de table, d'un dressage de buffet. Et on a par exemple les plans, et comme on parlerait de plans d'architecture, les plans pour dresser un buffet.
Où les trouve-t-on ?
On les trouve dans les livres de Carême. Carême a publié de nombreux recueils de recettes, mais également de pensées. Généralement, ces livres de recettes sont introduits par des textes de philosophie de gastronomique, dirais-je. C'est en ça qu'il est un grand théoricien de la cuisine, comme on en parlait en début d'émission. Et si vous voulez, il va aussi faire en sorte d'être l'un des premiers à se soucier de la transmission du savoir. C'est là où on entre dans une cuisine de civilisation. C'est-à-dire qu'il ne suffit plus d'avoir un chef qui a été génial. On veut que le génie du chef soit reproduit génération après génération.
Alors, on va accélérer un peu.
Je me tais dès que vous me faites signe.
Oui, mais le congrès de Mâcon, 18 juillet 1847. Et on va passer à un chapitre que j'ai beaucoup aimé. Le 17 et 28 août 1855, Napoléon III reçoit la reine Victoria. Et on doit beaucoup à Napoléon III quand même, le visage d'un beau Paris. Et quant à la reine Victoria, c'était pas n'importe quoi non plus. Hein.
Ah bah c'est la reine du plus grand empire du monde à ce moment-là, l'impératrice du plus grand empire.
Elle savait récompenser les gens qui la servaient. Quand Disraeli, son premier ministre, qui était un homme exceptionnel, a pris sa retraite, elle s'est levée. Il a eu le droit de s'asseoir dans le fauteuil pendant 2 ou 3 minutes. Hein. Alors, Napoléon III, donc, la reine Victoria. Rapidement, parce qu'on a encore beaucoup de choses, vous surtout, à raconter.
Alors, très brièvement, pour une bonne raison, et ça m'intéressait que ça figure ainsi dans le livre. Alors qu'elle est reçue à Paris pendant une petite semaine, on sait tout dans le détail incroyable des récits qui nous sont parvenus, des détails de la réception de la famille d'Angleterre à Paris, à Versailles, etc. Mais vraiment, on sait jusqu'à la décoration des chambres, on sait jusqu'aux robes portées par la reine, etc. Et cette visite, parce que ça tombe pendant l'exposition universelle de 55 à Paris, et cette visite se termine de façon grandiose par un dîner, par un souper offert dans l'opéra du château de Versailles. On sait tout de ce dîner. Il y a même un tableau qui est reproduit dans les pages d'images. Il y a même les plans de table que l'on connaît. La reine Victoria, dans son journal intime le soir dans sa chambre, qu'elle tient au quotidien, raconte les fleurs, décrit les fleurs qui étaient posées sur la table. Or, il m'a été impossible de retrouver le menu de ce repas. J'ai pu retrouver des menus qui ont des années, des centaines d'années d'antériorité, et celui-ci ne nous est pas parvenu, pour des explications diverses et variées, qu'il me plaît de décrire à la fin du chapitre. Et voilà pourquoi je peux m'arrêter là pour décrire ce chapitre, où les conservateurs de Windsor, que j'ai sollicité pour avoir des informations qui peut-être n'étaient pas chez nous, mais chez nos amis anglais, sont revenus bredouilles.
Alors là, on va passer à un chapitre que j'aime particulièrement, parce qu'il s'intitule... Alors, c'est le Noël 70 au café voisin, et il y a un menu de cheval. Il n'y a que du cheval. Et bon, bah, il faut dire, le menu d'ailleurs, vous le donnez. Hein, alors, est-ce qu'il vient pas. Attendez, parce que.
Non, chez voisin, c'est le menu du jardin de la ménagerie.
Voilà. Alors, oui. Alors, on a vraiment mangé. C'était pas d'ailleurs, il n'y avait pas de zoo de Vincennes. C'était dans le 5e arrondissement.
C'était la ménagerie du jardin des plantes et la ménagerie du jardin d'acclimatation.
Alors, évidemment, consommé d'éléphants, civet de kangourou, chameau rôti à l'anglaise, côte d'ours, cuisseau de loup, chat flanqué de rat. Ils en ont bouffé, les parigots. Hein
bon. On estime à 250 000 le nombre de chats qui sont passés à la casserole durant le siège, oui.
Ouais, bien sûr. Non, mais il y a quand même le menu de cheval aussi.
Parce que je reproduis effectivement un menu de cheval, parce que quand il y a encore des chevaux dans l'enceinte de Paris, on dit aux Parisiens de manger du cheval. Avant qu'ils aient à s'attaquer aux chiens, aux rats, et ensuite, en dernière possibilité, encore ce n'est que dans les grands restaurants, les animaux dont vous venez de parler. Il se trouve que l'hypophagie n'a jamais vraiment pris, mais ça a pris un siècle, en gros, de la fin du 19e siècle, et elle s'arrêtera à la fin du 20e siècle. On a encore vu dans certaines villes de France des magnifiques devantures de boucherie chevaline avec ce profil doré de tête de cheval, mais elles ont quasiment toutes disparu des rues de France et de Navarre. Sur certains marchés en province encore aujourd'hui, il arrive de trouver un discret étal de boucherie chevaline, mais c'est vraiment passé de mœurs.
Mais c'est comme les endroits où on achetait des triperies.
Exactement, oui, des tripiers.
Ça n'existe plus. Alors, on peut toujours trouver des tripes, mais enfin bon. Mais là, il y a cheval à la mode, haricots de chien, bon, bref. Alors, la réception...
Servi avec un cheval blanc.
La réception du tsar Nicolas II à l'Élysée, qui est notre allié. C'est-à-dire, on a quand même là deux alliés, la reine Victoria, l'Angleterre, et Nicolas II, qui vont bien nous servir en 14-18, et finalement aussi en 39-45, voilà. Alors la réception du tsar, on lui doit notamment le pont Alexandre III, dont le prénom est Sacha, et on connaît tous Sacha Guitry, évidemment. Alors, il n'est pas extraordinaire, je veux dire, il est assez...
Pardon, c'est un grand menu français.
Ouais.
Qui a cette particularité. Alors, la visite du tsar à Paris est somptueuse et abondamment documentée. On a même un tout petit bout de film d'actualité, une dizaine de secondes, où on voit le tsar et la tsarine dans les rues de Paris à bord de leur calèche, dans les archives. C'est la République qui les reçoit, c'est le président de la République, mais qui les reçoit avec un faste royal, réellement. Et ce sont des grands menus, donc avec de nombreux plats. Vous me demandiez tout à l'heure s'il y avait des trous normands. On voit bien dans le déroulé des repas qu'il y a l'équivalent de trous normands à travers des citrons givrés, par exemple, et ce genre de choses. Et ce qui est marquant dans ces menus, ce sont les intitulés des plats. Où finalement, ce sont toutes les régions de France, ou pourrait-on dire de l'Empire français alors, qui sont représentées à travers soit une spécialité locale, soit par l'appellation, à travers l'appellation d'un plat, une région évoquée. Et la grande table française élyséenne représente toutes les régions de l'Empire français d'alors.
Oui, mais il y a peu de... finalement... Même si on a dit à l'époque quand on mangeait les animaux que en Asie on mangeait la trompe d'éléphant, que c'était délicieux, ça a dû se payer très cher.
Le pied d'éléphant.
Alors le banquet des maires de France qui a lieu le 22 septembre 1900. Mais je vais vous dire, mon père par exemple, qui était né en 1920, m'en parlait. Ça a laissé une trace énorme, énorme, énorme. C'est une fête républicaine avant tout.
Ça n'est qu'une fête républicaine, mais il se trouve que la République, cette année-là, a eu l'idée, et a surtout réalisé brillamment, sans aucun accroc, le plus grand repas assis de l'histoire de l'humanité. Et je pèse mes mots. Plus de 23 000 personnes sont assises en même temps à table et sont servies en même temps à table pour un déjeuner qui ne dure qu'une heure et demie.
C'est dans les jardins,
des Tuileries. Ce sont des tentes oui. qui mesurent plus de 500 mètres de long qui sont plantées dans les jardins des Tuileries le long de la rue de Rivoli. Ce sont des jours et des journées d'installation. Les tentes sont également évidemment richement décorées. Les tables sont dressées, des couverts, des serviettes, des verres, etc. Et le repas est présidé par le président de la République, Émile Loubet. Il y a également des sénateurs. C'est la République qui se montre dans sa splendeur en cette année 1900. L'expo de 1900 est la plus incroyable qui soit. La France est alors un pays qui rayonne à tous les sens du terme. Et l'expo de 1900 s'en veut la démonstration et cette démonstration de rayonnement planétaire. Et donc, c'est dans cette folie des grandeurs que ce repas des mères qui a déjà eu lieu dans le passé, c'est déjà une tradition républicaine. C'est là où germe l'idée d'en faire le repas qui marquera tous les esprits.
Et donc, il devait y avoir des mères royalistes à l'époque, non ?
Alors, les tables sont tellement longues qu'il y a eu comme s'il y avait différents repas en même temps, si vous voulez.
D'accord.
Et certains se sont, paraît-il, pas très bien comportés les uns avec les autres, mais c'était pas tant pour des royalistes ou des républicains qu'entre maire du Bordelais et maire de Bourgogne, qu'il y aurait eu quelques heures. Mais,
à cause du vin.
Et uniquement à cause du vin.
Voilà. Alors, bon, moi j'ai entendu parler quand j'étais gosse, ça devait être Pierre Dac ou peut-être Georgius ou Milton, il disait que le plus grand banquet, en fait, c'était le banquet des abonnés du gaz. Alors, le premier dîner d'Épicure par Auguste Escoffier, le 18 mai 1912. On va passer rapidement parce qu'il y en a encore quelques-uns qui sont absolument fascinants, et notamment les repas de la fin de Noël. Mais bon, allez. Alors, Escoffier, en deux secondes.
Alors, Escoffier, en deux secondes, c'est une gageure, je vais essayer de m'y tenir. Escoffier s'inscrit dans la tradition d'Antonin Carême. C'est un grand chef. C'est un chef qui veut théoriser la gastronomie française, qui la théorise, qui écrit beaucoup de manuels de gastronomie, des livres de recettes, qui sont là aussi introduits et post-préfacés par des textes de réflexion sur la gastronomie, sur l'évolution de l'appétit aussi. Et Escoffier rencontre à la fin du 19e siècle un entrepreneur tout aussi génial dans son genre qui s'appelle César Ritz. Et les deux hommes inventent une chose qui n'existe pas, c'est le palace. Et ils vont ouvrir ces établissements, ces hôtels très luxueux, un peu partout dans le monde. Évidemment, nous connaissons le Ritz à Paris, mais avant le Ritz Paris, il y a le Ritz de Londres. Et ils vont en ouvrir partout sur Terre. Et cet établissement fait pour la haute société qui accueille tous les regards, a un cœur battant, où qu'il soit sur Terre. Le cœur battant, c'est le restaurant gastronomique. Et ce restaurant est forcément français. Auguste Escoffier va former lui-même, on estime à peu près à 3000 le nombre de chefs français qu'il va ensuite envoyer en éclaireur dans le monde, en pionnier dans le monde entier. Et c'est ainsi qu'il va faire en sorte de développer l'image de la gastronomie française, encore une fois telle qu'on la connaît aujourd'hui partout sur Terre.
Nous sommes sur Radio Courtoisie et vous vous rendez compte le plaisir que nous donne mon invité Jonathan Sixou avec son livre « Triompher en festin » au pluriel évidemment, chez Perrin, parce que vous êtes pas loin de l'heure du dîner là. Hein.
Ne coupons pas l'appétit à nos amis auditeurs.
Oh non, je pense que vous allez l'ouvrir. Alors, on va arriver à mon chapitre préféré parce que je suis un homme de l'art déco, qui est la dernière création artistique française, hein, historiquement, et le paquebot Normandie, l'inauguration le 23 mai 35. Et alors j'ai pensé, moi, à une chanson de Sablon que j'aime beaucoup, c'est une chanson traduite de l'Amérique, de l'anglais, « Les nuits à bord du Normandie si belles ». Et là, on a envie de dire, mais... alors, parler le Normandie, c'est absolument, mais extraordinaire, c'est... on n'avait jamais vu ça. Voilà, c'est...
C'est le plus grand paquebot du monde. Quand il sort des chantiers de Saint-Nazaire en 1935, il a dépassé la longueur symbolique des 300 mètres. La coque a dépassé la longueur symbolique des 300 mètres. Et c'est, vous parliez d'art déco, c'est un manifeste total. C'est-à-dire que c'est un manifeste du génie français en matière technique et technologique et industrielle, parce que c'est le bateau, dès sa première croisée inaugural transatlantique, il remporte le cordon bleu, qui est le cordon de la, du record de vitesse entre Le Havre et New York. Et parce que c'est une vitrine de la France, il est aussi la vitrine de l'art contemporain d'alors, qui est l'art déco. Et il est aussi la vitrine forcément gastronomique de la France. Il n'y a qu'un seul restaurant à l'époque dans les grands paquebots, restaurant forcément gastronomique. Il innove avec une deuxième salle qu'on appelle le grill, avec une gastronomie plus légère. Mais c'est finalement la grande salle de restaurant, c'est une cathédrale, des photos sont reproduites, c'est une salle incroyable qui fait quatre ponts de hauteur et avec des lustres monumentaux dus à l'alique. Il y a des meubles de Ruhlmann, la maison Christophe édite le service paquebot pour l'occasion. Si vous voulez, il y a tout un art de la table et tout un art de vivre qui accompagne cela.
On le surnommait d'ailleurs le Versailles des mers.
Oui, c'est un précédent qu'on appelait le Versailles des mers. C'était le premier France qui reproduisait différents
Alors,
éléments.
Alors, l'appelait comment le Normandie le Taj Mahal
Non, il a tout de suite été accepté par les Français d'abord et le monde entier par le nom. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir comment les personnes en font l'usage. Certains disent Normandie, tel qu'on pourrait vous appeler par votre prénom, et d'autres disent le Normandie, et même d'autres écrivent ou disent la Normandie, comme si c'était la Normandie qui fondait les flots.
Alors, Michel Mort a écrit dans un livre qui s'intitule « Paquebot, au pluriel, le temps des traversées », ceci, c'est quelques lignes que je vais vous lire. « C'était l'Europe de Locarno et de Paul Moron. L'Orient Express, l'escalier de Mistinguette, l'ambassade de Maurice Chevalier, c'était encore le grand hôtel de Balbec. » Et vous ajoutez Maurice Chevalier, adulé autant en France qu'aux États-Unis. Il a tourné 3 ou 4 films avec Lubitsch quand même,
Exactement.
C'est pas n'importe quoi. Incarne alors par son élégance et son esprit le passager de transatlantique. Il dira plus tard au sujet de ses traversées, une semaine calme, sans téléphone, en plein air non pollué, à choisir ses relations de voyage, la sieste, la vie au ralenti, la lecture, la réflexion. Formidable, il n'y avait pas de téléphone portatif. Mais alors, vous venez de citer des gens comme Lalique et Ruhlmann. Vous savez qu'il y a un endroit où on peut encore voir un bureau de Ruhlmann. C'est ce qui s'appelait autrefois le musée des colonies.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, oui, par
Port Doré. Maintenant, oui. La cité de l'immigration. Oui. Je crois que c'est celui de Lyautey ou de Paul Reynaud.
C'est Lyautey.
Lyautey, hein, oui, les colonies. Bon, mais c'est magnifique, Ruhlmann. Oui. Mais c'est l'art déco.
Ah, mais c'est magnifique. Et l'art déco conçoit des ensembles. C'est-à-dire que c'est pas uniquement le mobilier, c'est également les murs, ce qu'il y a sur les murs, et c'est vraiment la décoration, l'art décoratif au sens le plus complet du terme.
Et vous citez également de grands architectes art déco, Patou, avec un T, hein, rien à voir. Et si vous allez au métro, station de métro Place Ballard, vous avez l'immeuble paquebot de Patou, avec ses ronds et tout, et ça ressemble effectivement...
C'est le style paquebot.
Et Patou s'était fait l'avant du paquebot, c'était un triplex, mon Dieu, je voudrais être invité. Et expert, moi j'ai visité un des plus beaux immeubles d'experts, mais là on va rentrer dans le politiquement incorrect, c'est l'ambassade de France à Belgrade.
Ah oui.
Ah, vous l'avez visité ?
Jamais, non.
Ah mais bon, enfin bref, voilà. Alors, 70% de première classe aussi.
C'est pour ça qu'on raconte l'épopée, parce que c'est une épopée, elle est assez brève dans l'histoire, mais c'est une épopée tout de même, l'épopée transatlantique, à travers la première classe, parce que la première classe, comme dans l'histoire en général, c'est par le haut du panier que les choses avancent, parce qu'il y a des moyens qu'on permet à des esprits artistiques de se développer, en l'occurrence, soit les artistes, soit les chefs cuisiniers, et il y a énormément... L'invention avec le Normandie, c'est la vie publique qui s'invite à bord, c'est la société, la vie de société qui s'invite à bord, qui fait que, bien, vous citiez le passage de Maurice Chevalier qui dit « on est tranquille pendant une semaine », d'autres vont dire « mais c'est pas possible, on est davantage à Paris à bord du paquebot Normandie que quand on est chez soi à Paris ».
Ah, Paris, hein, bon...
Évidemment, nous sommes en première classe, forcément. Voilà.
Oui, et puis, alors il y a un menu pour chiens à l'époque, moi je trouve ça stupide. Mais bah écoutez, il y a quand même des trucs qui restent en cuisine, hein,
c'est bien sûr.
Et puis alors une chose aussi très intéressante, c'est que l'apparition de l'eau minérale dans le menu. C'est la première fois que dans votre livre je vois l'eau minérale. Il y en a des très bonnes.
Et également, évidemment. Mais c'est vrai que c'est le seul menu où apparaît, dans lequel apparaît l'eau minérale avec la marque de l'eau minérale.
Laquelle ?
Hosanna.
Ça va, alors. Elle existe toujours.
Elle existe toujours, oui.
Voilà, j'ai cru que vous alliez me dire une eau minérale infréquentable. Non, alors, Sacha Guitry avait dit qu'il prendrait le Normandie, il ne l'a pas pris. On dit que c'est parce qu'il...
Il avait une trouille des bateaux, il n'a jamais pris quasiment jamais la mer. Il avait peur des naufrages. Et il était très attendu sur la croisière inaugurale de Normandie parce qu'il devait donner une projection en avant-première de son film Pasteur. Et la projection a eu lieu, mais sans lui, il a eu la bonne idée de tomber malade juste avant le départ du bateau.
Quelle bonne idée! Alors, le 8 janvier 59, il y a le déjeuner de passation des pouvoirs à l'Élysée entre évidemment Coty, dont nous avons bien connu l'arrière-petit-fils, qui était un homme charmant et un grand écrivain.
Saluons la mémoire de Benoît Duterte.
Ben exactement, c'est un grand monsieur et un grand écrivain. Et évidemment, l'autre, c'est le général. Bon, alors, vous rappelez aussi qu'il n'aimait pas beaucoup l'Élysée. Il a pensé à d'autres endroits, y compris au château de Vincennes, vous rendez compte, si ça serait magnifique. Non, il y a une chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le 12 décembre 1972, dans un bal surréaliste chez les Rothschild au château de
Ferrières.
Mais je crois, c'est toujours à eux, non?
Non, ça a été racheté par la municipalité de Ferrières.
S'il me semble que je l'ai visité, le château de Ferrières, vers 90-91, et que c'était encore peut-être...
Alors, c'est une période de transition, dirions-nous.
Prêté, etc. Ouais, ouais, ouais. Alors, bal surréaliste, ça veut dire qu'on fait des hommages... je trouve ça extraordinaire.
Le maître de cérémonie s'appelle Salvador Dali.
Oui, alors lui, il n'est pas costumé.
Il n'a pas besoin.
Mais on peut évoquer dans son masque, car c'est un bal masqué, Max Ernst, de Quirico, Picabia, Delvaux, Tanguy... Magritte, qui était très travailleur, vous savez.
Exactement.
Vous savez qu'on disait de lui Magritte boss.
Non, ça, je connaissais pas le mot, non.
Non, mais bon, vous savez, c'est plus fort que moi. Mais alors, j'ai été très, très intéressé parce qu'il y a Jacqueline de Lubac, qui, vous savez, bon, elle était une des cinq femmes épousées.
Par Sacha.
Par Sacha, par Alexandre, voilà. Et elle a écrit un livre, d'ailleurs, je me permets de le dire, qui s'appelle Peut-on épouser Sacha Guitry ? Où on apprend certaines choses sur son érotisme.
Elle avait beaucoup de choses à lui reprocher, donc je ne sais pas s'il faut tout prendre au pied de la lettre.
Vous savez qu'elle a été renversée par... C'est pas dans votre livre, mais elle a été renversée par un autobus. Mmh. Mais elle avait légué au musée de Lyon ses tableaux, et qui n'en a pas voulu. Donc après, ils l'ont diffusé, etc. Mais ce banquet, évidemment, alors ce bal, il n'a rien à voir avec celui d'Irène Nimorowski, qui est un petit chef-d'œuvre de littérature.
Ah oui, non, aucun rapport. Non, non.
Aucun rapport. Mais alors, qu'est-ce que ça devait être? Hommage à Proust également.
Il y a eu deux grands bals à Ferrières, donnés à deux années d'intervalle. Le premier, effectivement, le bal Proust, où là, il y avait des centaines d'invités qui devaient venir habillés façon belle époque, qui avaient marqué les esprits en son temps. Et donc, deux ans plus tard, Marie-Hélène de Rothschild souhaite donner ce bal surréaliste. Et c'est plus d'un an de préparation, effectivement, d'élaboration, de redécoration du château, d'élaboration du menu également. Tout est pensé pour être étrange, pour être bizarre. Et il s'en donne à cœur joie. Et là, c'est un bal pour Happy Few. Il y a à peu près 60 invités, 80 invités. Et beaucoup sont tellement embêtés de ne pas être invités, ils prétextent d'être à l'autre bout du monde le jour du bal pour dire « Ben non, je peux pas, je suis aux États-Unis ».
Mais attendez, il y a quand même une exigence pour ce banquet-là de s'habiller d'une certaine façon.
Ah bah c'est ce qu'on appelle robe longue et cravate noire, c'est-à-dire smoking et robe de soirée. Mais il faut venir, c'est un bal de tête, c'est-à-dire qu'il faut venir masquer avec un masque. Et là, toutes les bizarreries sont permises. Audrey Hepburn, par exemple, arrive avec la tête dans une cage et elle va garder sa cage autour de la tête pour dîner. Elle ouvrira la petite porte devant sa bouche pour passer la fourchette durant le dîner. Et Marie-Hélène de Rothschild, elle a une tête de cerf, grandeur nature, comme masque, et elle va la retirer tout de même pour passer à table, mais va conserver les bois sur
elle
sa tête.
Elle aime plus les oiseaux que Tippi et Drain, en tout cas. Bon, voilà. Alors, il y a également l'hommage, c'est très intéressant, le banquet de l'anti-nouvelle cuisine, le 25 février 1975, dont je ne donnerai qu'une phrase de Bocuse à propos de la nouvelle cuisine.
Oui.
Tout sur l'addition, rien dans l'assiette.
La messe est dite.
Maintenant, on va essayer de terminer... On a 7-8 minutes parce que j'ai une communication à faire aux auditeurs et je voudrais pas que vous soyez là, elle est personnelle et mon cher Jocelyn, qui est un garçon admirable, n'est pas, absolument pas au courant non plus. Voilà, c'est le Noël des troupes.
C'est le Noël des troupes et c'est avec ce Noël des troupes que je conclue cette traversée de l'histoire de France. En arrivant en 2017 à l'Élysée, Emmanuel Macron veut honorer les soldats déployés à l'étranger en temps de guerre au moment de Noël. Jusqu'à la présidence Macron, les militaires en service sur le terrain reçoivent pour améliorer leur ration quotidienne un ballotin de chocolat ou une boîte de foie gras, mais rien de plus. Parfois, la visite éclair d'un chef de l'État, du chef de l'État, mais ça s'arrête là. Lui veut qu'il, le chef de l'Élysée, le chef cuisine de l'Élysée, leur concocte un vrai repas de Noël tel qu'il pourrait leur être servi à l'Élysée. Et depuis 2017, le président de la République se rend avec le chef des cuisines de l'Élysée un peu partout où il y a des soldats déployés sur le terrain. Et 2-3 jours avant Noël, généralement c'est entre le 20 et le 22 décembre, le même protocole se met en place dans une base, arrive un peu avant le chef de l'État, les cuisiniers qui mettent tout en place et un beau menu relativement simple en soi, mais qui fait un bien fou aux soldats. Et ça, l'ancien chef Guillaume Gomez de l'Élysée, qui aujourd'hui est l'ambassadeur de la gastronomie, m'a raconté ça dans une conversation que j'ai retranscrit, m'a parlé de l'émotion incroyable. Bon, la guerre, c'est un truc de jeune. Et il me décrit ces gamins qui ont 20, 25 ans, qui, à la veille de Noël, sont à des milliers de kilomètres de chez eux et qui ont le temps d'un repas, la larme à l'œil, en disant « Mais ce gâteau au chocolat, il a le goût de celui de ma grand-mère, mais ça, c'est le fromage de chez moi, mais ma mère fait la même poularde au morilles, etc. » Et ça crée une communion autour de la table qui représente encore une fois cet état d'esprit français lié à la gastronomie et à l'intérêt que nous portons tous, d'une façon ou d'une autre, à la bonne chère.
Mais que la France s'incarne dans la gastronomie, je dis bien s'incarne, hein. Ce n'est pas de la légèreté, mais c'est la continuité française. Ouais. En fait, c'est une de ses plus grandes originalités. Aimer manger à la française, mais c'est aimer son pays. Alors, on va maintenant... je pense aux malheureux des Noëls. Si, il y a eu un film d'ailleurs là-dessus, Joyeux Noël de Christian Carion. Mais je pense aux malheureux qui étaient dans les tranchées, qui n'ont pas tout. Ils ont renoué avec le siège de Paris,
les pauvres.
Mais je voulais dire que ce bouquin, dans le sens noble du terme, hein, Triomphé en festin au pluriel, chez Perrin de Jonathan Sixou, on doit se le procurer. Parce que c'est écrit, parce que c'est de la gastronomie, et puis parce que c'est l'histoire de France, c'est tout ce qu'on aime. Alors, je vous ai choisi pour terminer, cher Jonathan Sixou, une chanson de musique de Léo Ferré qui a mis en musique un poème de René Baer, qui n'a pas eu un gros succès comme poète, et qui dit une chose tellement juste. Mmh. C'est-à-dire, il dit à un moment, je n'ai jamais goûté des Chambertins ou des Margaux, mais je connais leur nom. Et nous avons aussi une richesse, même dans les périodes de disette, nous savons que nous sommes chez nous. Et ça, c'est extraordinaire. On l'écoute.
C'est une très belle chanson.
Vous l'avez écoutée ?
Oui, bien sûr.
Oui, on l'écoute. Je vous donne rendez-vous pour un prochain livre. Et on l'écoute quand même.
Merci Alain Pocard.
On m'a prêté 4 vieux murs pour y loger mes 4 membres. Et dans ce réduit très obscur, je voulus installer ma chambre. Pour lui donner un air coquet, je suspendis aux murs en pente les diplômes que j'ai manqués et mes décorations absentes. Sur une table, les photos de celles qui se refusèrent, sur des rayons, les in-quarto des livres que je n'ai su faire. J'ai mis derrière les fagots, les grands crus de notre royaume, les Chambertins et les Margaux dont j'ignore jusqu'à l'arôme. Et dans un vaste coffre-fort, rangés en piles régulières, toutes les valeurs et tout l'or que j'aurais pu gagner naguère. Par la fenêtre se glissant, voici qu'un doux rayon bleu est venu remplir mon théâtre d'un mobilier étourdissant. Voici des tapis d'ambition, voici des tentures de rêve. Voici qu'un rideau se soulève sur un chevalet d'illusions. Voici des coussins de serment couvrant des fauteuils de promesses. Et puis des colliers de tendresse et des bouquets de sentiments. Voici le mirage de l'art, voici des songes en rasade. Le divan de Sherazade et le clavecin de Mozart. La chimère en 4 secondes. Décorateur sur champ d'azur. A fait de mes 4 vieux murs la plus belle chambre du monde. La 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 la.
Alors j'ai un petit message à adresser, très cordial hein, évidemment. Oui, alors nous sommes dans les élections municipales à Paris et à ce jour, aucun candidat à la mairie de Paris n'a évoqué l'abrogation des règles d'urbanisme adoptées par M. Delannoy et qui avait d'ailleurs permis, vous le savez, de nous donner sous Mme Hidalgo la tour Triangle et les 2 tours du Haut de Nouvelle qui sont des abominations esthétiques. Y aura-t-il encore des tours à Paris? Voilà la question qui m'intéresse. Et il y a d'autres questions, par exemple, dont on ne parle jamais. Est-ce qu'il y avait un vieux projet dont ils avaient même parlé, je crois, Delannoy, qui était de remettre au jour, plutôt qu'à jour, la Bièvre qui passe à Paris, rue des Tanneries, etc. Alors, bon, c'est une élection, c'est pas une élection municipale comme à Nogent-le-Rotrou ou à Castelnaudary, hein. Les élections municipales à Paris, c'est presque l'élection de ce qui fut la plus belle ville du monde. Et depuis ma première émission du 9 juin 1998, moi, Pocard de Paris, comme on me surnomme, j'ai publié 10 livres sur Paris. 10! Dont Les criminels du béton, Tiré sur l'architecte, le Paris s'est foutu, titre qui se passe d'explication. Alors je me demande si la direction de la radio sait qui je suis. Parce que je suis toujours pas invité pour la radio pour évoquer une question de ce genre. Si quelqu'un devrait être invité, à mon avis, en priorité, parmi les patrons d'émissions, ce serait Bibi. Mais je vous le dis, hein, quand on a écrit 10 bouquins sur Paris, quand on vous appelle assez communément, c'était du tour, je crois qu'il avait trouvé ça, Pocard de Paris, bon bah voilà, c'est tout, il n'y a pas de choses méchantes de ma part et tout, mais je voudrais savoir pourquoi Pocard de Paris n'est pas invité pour parler de l'esthétique de la capitale en cette période d'élection municipale. Bon, on va parler de choses beaucoup plus gaies. Le 28 mars, je consacrerai une émission à 3 grands écrivains français, Marcel Aimé, Pierre Gripari et Alexandre Vialat. Évidemment, et malheureusement, ils sont morts, mais ceux qui aiment les associations, qui animent, pardon, les associations qui leur sont consacrées, ceux-là sont bien vivants. Donc, ils se battent pour la littérature, parce que la littérature, c'est le cœur de la langue française. La langue française a créé la civilisation française par la littérature et par d'autres choses encore. Je n'ai rien, évidemment, contre la musique, contre bien d'autres choses encore, mais enfin, quand même, la littérature, c'est important. Donc, le 28 mars, on évoquera Marcel Aimé, Pierre Gripari et Alexandre Vialat. Voilà, voilà, je vais terminer peut-être un peu plus tôt, je croyais que mon message serait plus long. Je vais vous rappeler encore, même si je l'ai fait sortir, car il n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire, notre ami Jonathan Sixou pour son livre « Triompher en festin, une histoire de France en 20 repas » aux éditions Perrin. Donc, eh ben, écoutez, si tout va bien, on se retrouve dans 4 semaines et 3 minutes pour évoquer la littérature française.
Vous venez d'entendre le libre journal de la douceur de vivre dirigé par Alain Pocard, diffusé en direct sur Radio Courtoisie samedi 28 février 2026 de 18h à 19h30 et réalisé par Jocelyn.